والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام، نرمسي الله سبحانه وتعالى qui nous donne la possibilité de nous réunir cet après-midi après la salat al-asr pour parler un petit peu du ramadan, parler un peu du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait évoqué la façon que le musulman doit procéder, la manière dont on doit procéder pour demander istighfar, pour demander tawbah, pardon, à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué que parmi les conditions du repentir sincère, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Que lorsqu'un mu'min a fait un péché, a fait des erreurs, il pense à Allah subhanahu wa ta'ala et donc il demande tawba, il demande le repentir à Allah azza wa jal. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui à part Allah pardonne? Dites-moi, qui à part Allah pardonne? J'ai expliqué la dernière fois qu'un être humain, peut ne pas pardonner à son prochain. Si quelqu'un a fait des erreurs, accumuler des erreurs, si quelqu'un a répété et répété les mêmes erreurs, et que vous l'avez pardonné une fois, deux fois, mais la personne ne comprend pas, elle répète les erreurs, à un moment donné, on va se dire que bon ben cette personne-là, elle n'est pas prête à écouter, on va aborder la personne et on décide de ne plus jamais accorder d'attention à cet individu. Mais ça, c'est la réaction humaine, c'est la réaction de insan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est ghafour et rahim. Allah, il est afou, ghafour, Allah pardonne, Allah est clément, Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi, dans lequel Allah ta'ala dit que Abdi, mon serviteur, fait un péché et il demande tawba, il dit: oh Allah, j'ai fait tel péché, pardonne-moi ce péché. Il a dit que Allah ta'ala est tellement content, tellement satisfait de la requête de ce musulman qu'Allah ta'ala répond que mon serviteur a fait un péché et il s'est souvenu. Il a pris conscience qu'il a un Dieu, qu'il a un Seigneur, qu'il a un Rabb au-dessus de lui qui le surveille et que ce Rabb est miséricordieux et donc je l'accorde mon pardon. La suite du hadith Qudsi, la même séquence est répétée 4 fois. Il dit que, et ensuite, la personne recommence, la personne accomplit de nouveau un péché et il se souvient, il se rend compte de son péché et il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala répète la même phrase 4 fois. Il dit qu'Allah Ta'ala dit que mon serviteur a fait un péché et il s'est souvenu qu'il a un Seigneur, un Dieu qui est miséricordieux, pardonneur, et il me demande pardon et j'accorde mon pardon. Les ulama disent que si quelqu'un fait un péché et demande tawba sincèrement et qu'Allah Ta'ala accepte inshallah son tawba, faut bien comprendre que quand quelqu'un a demandé tawba avec sincérité, la personne doit être convaincue que son tawba est accepté. Ça, c'est extrêmement important. Comme on explique les hadiths lorsqu'il y a le hajj, par exemple, Wukuf Arafah dit qu'Allah Ta'ala pardonne à tout le monde et qu'on n'a pas le droit de douter. Quand quelqu'un est à Arafat, qu'il a demandé doua, il n'a pas le droit de douter si Allah a accepté ou non, si Allah m'a pardonné ou non. Parce qu'à ce moment-là, assurément qu'Allah pardonne, qu'Allah exauce. Mais toute l'année, c'est pareil. Si quelqu'un a demandé doua avec sincérité et que la personne a réuni les conditions du repentir sincère, du tawbatul nasuha, avec les remords, le repentir lui-même et l'intention ferme de ne plus jamais recommencer le péché, et que la personne intérieurement elle est apaisée et elle réussit à se défaire de ce péché, elle doit être assurée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son tawba. On expliquait ça aux jeunes il y a quelque temps. Elle dit, même si on est arrivé à un degré d'éloignement de la religion, un tel degré où pendant 15 ans, 20 ans, on a fait énormément d'erreurs. Pendant qu'on a 30 ans et depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, on a cumulé des erreurs. Sortie en boîte, consommation d'alcool, consommation de stupéfiants, adultère, zina, tout ce qui est mauvais, on a cumulé pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans consécutifs. En aucun cas, la personne ne doit se dire que, bon, je suis allé trop loin. En aucun cas, la personne ne doit se dire que je suis allé trop loin et j'ai honte de me présenter devant Allah. Jamais de la vie. La taqnatu mir rahmatillah. Allah Ta'ala interdit aux croyants de désespérer de sa clémence, de sa miséricorde. Au contraire, celui qui finit par se dire que
moi j'ai fait trop d'erreurs, je me suis trop éloigné, c'est trop tard pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de sombrer encore plus. Il a été piégé une fois par Shaitan, par ce péché. Maintenant, Shaitan est en train de le piéger par Al-Yas, par le désespoir. Et le désespoir en Allah est en lui-même un péché déjà, est également un péché. Donc, quelle que soit la gravité de nos fautes, nous devons être conscients qu'au-dessus de nous, il y a un Seigneur qui est miséricordieux, clément et qui aime pardonner. Et rappelez-vous, qu'on se rappelle en permanence une histoire. Et ce hadith, tout le monde connaît. Cette personne qui avait tué 99 individus, tout le monde connaît le hadith authentique. Parmi les populations avant nous, il y avait un homme qui avait tué, c'est un grand meurtrier, il avait tué 99 individus. Il a été voir quelqu'un pour dire « Halli min tawba, est-ce qu'Allah Ta'ala peut me pardonner ?» C'est-à-dire, vous savez, le mu'min, il se peut qu'à un moment donné de sa vie, il a une étincelle de foi. N'importe quelle personne peut avoir une étincelle de foi et se dire à un moment donné que il faudrait peut-être que je demande pardon à Allah. Et quand il y a cette étincelle de foi, il faut surtout ne pas laisser Shaitan l'éteindre. Il y a des fois où on a une petite motivation. Il y a des fois où on a comme, je ne dis pas, ce n'est pas comme une poussée d'adrénaline, hein, mais c'est comme une poussée de iman. Je ne sais pas si chimiquement on peut le voir à travers des analyses, mais il y a une petite poussée de iman qui fait qu'on a envie de faire quelque chose de bien. Il faut profiter de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle tawfiq min Allah. C'est quand Allah vous a accepté. Il est possible que, malgré notre mauvais parcours, il y a eu une petite chose qu'on a fait de bien, on a rendu service à une personne, ou alors, je ne sais pas, un sourire à notre papa, à notre maman, ou un moment où, en temps normal, nos parents sont désespérés de ce qu'on fait, mais qu'une fois au moins, on a fait quelque chose qui nous a fait plaisir, et que dans leur cœur, il y a un doigt qui est sorti. Et la meilleure des choses qu'Allah peut m'accorder, c'est quoi? Le plus beau cadeau qu'Allah peut m'accorder, c'est quoi? C'est une belle voiture? C'est une jolie femme, une grande maison, la réussite professionnelle, là wallah. La plus belle des choses qu'Allah peut m'accorder dans cette situation où je suis enfoui, noyé dans mon péché, c'est qu'Allah me donne la possibilité de m'en sortir. Qu'Allah me donne la possibilité avant tout de prendre conscience que je suis dans le mal. Parce qu'il n'y a pas pire pécheur que celui qui n'est pas conscient qu'il pêche. Ça c'est grave ça. Quand quelqu'un ne réalise pas que ce qu'il fait c'est mal, alors là c'est compliqué. C'est très compliqué parce que la personne ne prendra pas conscience qu'il est dans le péché, qu'il est dans le mauvais chemin. Et donc, il ne saura pas pourquoi lever les mains, demander Tawba. Et même s'il le fait, il le fera sans réfléchir. Comme on l'a expliqué la dernière fois, la première condition à réunir, elle est difficile. Il y a des gens qui se disent que oui, mais c'est hypocrite, Tawba, Tawba, et Allah y accepte. Après, il continue de faire sa bêtise. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Le tawba, Allah est pardonneur. Mais pour réunir les conditions du tawba, il y a des choses. Il y a hudurul qalb. Il faut que le cœur soit réellement présent. Et on avait dit la dernière fois, rappelez-vous que la première condition, c'est regretter le remords. Et dites-moi, si quelqu'un n'a pas pris conscience que ce qu'il fait est mal, comment est-ce qu'il va regretter? Et s'il ne regrette pas son péché, le tawba n'est pas accepté. S'il ne regrette pas le péché, les conditions du tawbatun nasuha ne sont pas acceptées. Et comment regretter un péché? Prendre conscience que ce qu'on fait est mal. Donc quand quelqu'un a pris conscience que ce qu'il fait est mal, il a demandé tawbah à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala est capable de pardonner. Et donc, en train de perdre un peu le fil pour revenir à la personne qui est extrêmement éloignée, elle doit se rappeler de cette histoire où cette personne avait tué 99 personnes, 99 individus. Il a demandé à un adorateur d'Allah, un abid. Bon, je ne sais pas s'il y a autant de détails dans les riwayats ou c'est les commentaires. Il paraît que la personne n'était pas un savant, c'était quelqu'un qui faisait adoration d'Allah. Bas. Il a demandé, est-ce qu'Allah Ta'ala peut encore me pardonner? La personne dit qu'après avoir tué 99 personnes, c'est plus possible. Sachant que le crime, tuer une personne, c'est un kabira. Et c'est une des premières choses à propos de laquelle il y aura des comptes concernant les relations avec les gens. Ad-Dima, une des premières, un des premiers jugements qui sera prononcé le jour des comptes, c'est Fid-Dima, concernant le sang. Si quelqu'un a fait couler le sang innocemment. Et donc, cette personne, instinctivement, par logique, a dit que tu as fait trop d'erreurs, jamais Allah ne va te pardonner. Et donc, on connaît l'histoire, la personne était tellement en colère qu'il a tué cette personne aussi. Et donc, il a donc tué 100 personnes. Ensuite, il est allé voir quelqu'un d'autre, un savant, qui lui a dit que oui, Allah peut te pardonner, mais fais un effort. Quitte cet endroit et va avec ces gens. L'histoire est très connue, le hadith est très connu. Et donc, ce savant l'a fait comprendre que Allah peut te pardonner. Et quand il est mort, effectivement, pendant son voyage, hein, il est mort pendant le voyage, et en finalité, Allah Ta'ala a accepté son tawba. C'est les anges de la rahma, de la bénédiction, qui ont pris son âme. Ce qu'on doit retenir à travers ce récit, hadith que tout le monde mémorise, tout le monde a déjà entendu au moins une fois, on doit bien comprendre que, quelle que soit la quantité de péché et le temps passé dans les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à pardonner à l'être humain à partir du moment où on réunit les conditions. Et les conditions à réunir, mes chers frères, ce ne sont pas des conditions financières, ce ne sont pas des conditions extérieures. C'est pas que pour demander tawba il faut couper 10 moutons, 10 cabris, 2 bœufs, faire telle chose. C'est pas qu'il faut avoir des moyens, ou alors pour faire le tawba il faut rester 15 jours dans la masjid, ou alors il faut faire, je sais pas moi, c'est pas des éléments extérieurs. Tout se passe en silence. Ça c'est ajib ça. On peut se faire pardonner une vie de péché, on peut changer notre destin, passer de l'extrême du Jahannam, qu'Allah nous protège, à l'autre extrême, le Jannah, en 10 minutes, 15 minutes, à condition que dans ce cœur, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de pensées qui viennent, il y a des sentiments qui ressurgissent, qui naissent, il y a des choses qui sont effacées, il y a des larmes qui sont versées, il y a une intention pure et sincère qui en ressort. Et à partir du moment où la personne, et ça on peut le faire, Allahu Akbar, quel que soit le lieu, l'endroit, il n'y a pas besoin d'être au hajj pour demander tawbah. Il y a des gens qui disent que je fais tellement de péché, c'est que devant la Kaaba je peux être pardonné. Là, wallah, chez toi, ou la Tanié, ou Moufia, ou Saint-Clotilde, ou Sauveu, demande tawbah. Si dans le cœur il y a les bons instincts, il y a les bons mécanismes, il y a les bons sentiments qui naissent, il y a le remords, le regret qui naît sincèrement et une intention ferme de ne plus recommencer. Et quand on demande tawba, on reconnaît que Allah est au-dessus de nous. Allah, il est pardonneur, clément, miséricordieux. Rabbana zalamna anfusana. Oh Allah, j'ai fait des erreurs. J'ai fait plein de bêtises, j'ai fait plein de péchés. Wa illam taghfir lana. Si tu ne nous pardonnes pas, wa tarhamna, et tu ne fais pas preuve de clémence, lanakunanna min al-khasirin, fera partie des gens qui ont perdu. On le dit avec sincérité, assurément, Allah Azza wa Jal va accepter le tawbah. Donc la dernière fois, on avait traité de ce point-là, comment demander tawbah. On avait surtout insisté sur la première condition, regretter, et comment arriver à ce point où on va réellement regretter un péché. On avait dit qu'il est important que la personne, hein, s'instruise, lise un peu les textes du Coran et les hadiths concernant ces erreurs. Et ça nous ramène vers la première étape pour lire les textes concernant nos péchés afin d'en prendre conscience. La première étape, c'est une solution proposée, c'était de mettre par écrit nos erreurs, de faire une fiche Ramadan 2012, état des lieux spirituels, d'accord, et là écrire mes erreurs sont telle chose, depuis mon réveil le matin jusqu'à le coucher, voilà mes erreurs qui reviennent tout le temps. Voici les péchés qui m'empêchent de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Voici les actions qui m'empêchent d'obtenir le paradis. Voici les actions qui sont en train de m'emmener vers l'enfer. Vous savez, parfois qu'on lit l'histoire des sahaba, radhiyallahu anhum ajma'in, il y a des récits qui nous interpellent, il y a des récits qui nous laissent perplexes. Perplexes pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi, le iman de ces gens pour comprendre leurs agissements. On est en train de lire un verset sur Salatu Tarawih, concernant la loi du talion, le qisas, concernant la personne qui a volé, et que Allah Azza wa Jalla avait demandé que la personne qui vole, que sa main soit coupée. Vous connaissez ce ayat, se trouve dans le Coran. Et il y a l'histoire d'un sahaba qui effectivement avait volé, et que le sahaba s'empressait, il voulait absolument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne la sentence de couper sa main. Parce que, mais comment ça? Comment c'est possible? Quelqu'un ici va perdre l'usage de sa main droite, c'est catastrophe, il ne peut plus travailler. Et j'attends de réfléchir après, mais cette personne qui perd sa main droite, comment il monte à cheval? Encore nous, on conduit, une personne peut conduire la main comme, je ne sais pas, hein, c'est des réflexions personnelles, mais quelqu'un qui a besoin de monter à chameau, à cheval, subhanallah, dans quel taklif la personne sera. Mais les hadiths décrivent la motivation, voilà le mot. La personne était extrêmement motivée, il attendait avec impatience quand est-ce que le qisas, quand est-ce que le prophète sallam allait ordonner à une personne d'exécuter cette sentence. Parce que la personne est allée voir le prophète direct, hein. C'est pas qu'on l'a attrapé, il fallait 10 personnes pour l'amener vers le prophète, dit voilà, c'est lui le voleur. Non! Il a fait un péché, il a compris qu'il a fait une grosse gaffe, il a dit au prophète d'Allah, je veux que tu me purifies. Et ça nous rappelle l'histoire également de cette dame qui avait fait l'adultère, qui était voir le prophète et dit « Ya Rasulallah, tahirni, purifie-moi au prophète d'Allah. J'ai fait l'adultère. » Et le prophète a dit, et cette dame attendait un bébé donc. Le prophète a dit « Attends que tu donnes naissance à l'enfant. » Le prophète lui a accordé plusieurs mois afin qu'elle donne naissance à l'enfant. Les ulama disent que pourquoi le prophète lui a accordé ce délai? Le prophète avait espoir que cette dame, pendant ce temps-là, demande tawbah à Allah et puis qu'elle n'ait plus envie de revenir. Puis la personne revient, la dame revient, elle dit au prophète d'Allah, tahirni, avec l'enfant de la main, elle dit que non, attends que cet enfant puisse consommer, puisse boire, puisse manger, etc. etc. Donc, on voit que les sahaba, radhiyallahu anhum ajma'in, eux, ils avaient compris les deux mondes distincts. Ils avaient compris le monde du dunya et le monde du akhira. Ils avaient surtout compris la relation qu'il y a entre ce dunya et le akhira. Que si je fais un péché ici, et que si jamais, si par malheur, je retourne auprès d'Allah Azza wa Jalla, le jour des comptes, avec ce péché toujours avec moi, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument me débarrasser de ce péché dans ce dunya. Eux, ils avaient compris. Et donc, cet homme-là, il va avoir le prophète pour qu'il le purifie, pour qu'il coupe sa main, Allahu Akbar. Et là, le prophète ordonne la sentence, et le hadith décrit, il dit que quand la personne voit sa main tomber, c'est comme si qu'il repousse, comme quelque chose d'impur. Il dit en arabe que c'est toi qui voulais m'amener dans le Jahannam. C'est comme si qu'il maudit cette main qui tombe. C'est comme si que vous avez quelque chose de sale dans la main, que vous jetez avec dégoût, avec dédain. Et il dit que c'est toi qui voulais m'amener vers l'enfer, va-t'en, sors maintenant. Quand on lit ça, on se dit que, ajib ça, ces réactions. On est perplexe, on ne sourit pas, on n'est pas touché. On se dit que mais comment est-ce qu'une personne peut réagir comme ça? Ça c'est quelqu'un qui vit avec les pieds sur terre, mais avec, c'est comme si que son cœur est avec Allah Azza wa Jal. Et c'était le cas de tous les sahaba, radhiyallahu anhum ajma'in. Il y avait un récit, subhanallah, on disait ce matin encore, il y avait un verset du Coran concernant la foi, et le prophète avait demandé à un sahaba, j'ai plus son nom en tête, il a dit, il dit le nom du sahaba, kayfa asbahta, comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Il a dit, ya Rasulallah, asbahtu mu'minan kamila, asbahtu mu'minan, comment s'appelle le sahaba? Harith. Il a dit, ya Harith, kayfa asbahta, jazakallah khair wa barakallah fik, ya Harith, kayfa asbahta, il dit, comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Il dit, qu'avec la foi complète. Le prophète dit, attention Harith, toutes tes paroles doivent avoir une réalité. C'est quoi la réalité de ta foi? Et il explique, il dit que quand je vis, c'est comme si que je suis devant le trône d'Allah, c'est comme si que je vois le paradis, c'est comme si que je vois l'enfer, et tout ce qu'il y a de ce dunya, ça ne me fait rien du tout. Mon cœur est avec Allah, j'attends que ce moment de rencontrer Allah. En ce sens, c'est ce que Harith a dit. Le prophète alayhi salat wa salam l'a écouté attentivement, il a dit, Harith, tu as dit vrai, reste ferme, reste sur ce droit chemin, reste dans cet état spirituel là. Ça c'était la foi, le iman des sahaba. Donc, subhanallah, on a vu donc comment se débarrasser des péchés, comment apprendre à regretter et comment prendre un nouveau départ. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à un nouveau départ. Comme on a dit, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un être humain, un insan qui peut se dire que j'ai pas de péché. Ça, c'est pas possible. Tout le monde accomplit des péchés. Maintenant, le mois de Ramadan est le mois propice où toutes les conditions sont réunies pour pouvoir regretter le péché, sachant que Shaitan n'est pas là, et demander tawbah à Allah, plus encore, sachant qu'Allah Ta'ala pardonne à toutes les personnes qui font le moindre effort pour lever les mains, pour essayer d'obtenir son contentement. Et donc, si une personne peut faire la liste de ses péchés et essayer de les éliminer un par un, même si c'est tous les ans, il en enlève 2, 3, 4, mais Allah Ta'ala ne serait, subhanallah, va voir, Allah Ta'ala, il connaît déjà ce qu'il y a dans le cœur, Allah Ta'ala voit que la personne a envie de se rapprocher de lui. Et c'est ça le plus important, mes frères, de montrer à Allah Azza wa Jal qu'on est prêt, qu'on a envie de faire un effort. Et ça rejoint le hadith très connu également, dans lequel le prophète explique quand quelqu'un, une personne se rapproche d'Allah d'un pas, Allah Ta'ala se rapproche de lui de 2 pas. Avec différentes métaphores, un empan, une coudée, quand quelqu'un vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Et on a dit que qu'est-ce qu'on comprend à travers ce hadith? Le tawfiq. Si quelqu'un a eu le tawfiq de faire un pas, si Allah voit que la personne fait un effort, Allah ouvre les portes du Qaboul. Si Allah voit que quelqu'un a fait un effort, il essaie de se rattraper, il essaie de se rapprocher d'Allah, Allah l'accueille, Allah ouvre les portes pour la personne. Mais tout doit démarrer dedans. Tout commence, bi'ivnillah, à partir du cœur. Quand on regrette, quand on fait l'intention ferme et quand on fait des efforts, je me dis que je vais faire telle chose, je vais essayer de faire telle chose. Imaginez quelqu'un, et la meilleure chose, Inch'Allah, dimanche prochain, si on n'oublie pas, si Allah donne la possibilité, on va aborder le thème du itikaf. La semaine prochaine, nous ne serons pas encore dans la dernière des quatre, c'est ça? On est le 10e, on sera le 17e à peu près, dimanche prochain, donc il sera encore temps, si quelqu'un veut s'inscrire au itikaf, il y aura encore la possibilité. Et honnêtement, si quelqu'un veut un changement radical dans sa vie, le itikaf est la meilleure des solutions. Si quelqu'un veut vraiment tout changer en quelques jours, veut prendre un nouveau départ, veut revenir vers Allah, veut atteindre les plus hauts degrés de foi, en plus des sawabs qu'on citera, Inch'Allah, les récompenses qu'il y a de l'i'tikaf en lui-même, mais sachant qu'il va rester dans la masjid, il va se concentrer sur les a'mal, sur les bonnes actions, il va rester éloigné pendant 10 jours, au moins 10 jours, il va rester éloigné des péchés, et qu'il saura se réveiller tous les soirs pour le qiyam ul-layl et la prière de la nuit, et il va faire toutes ses salats en jama'at, en congrégation, au premier rang avec le takbir oula, il va pas parler des choses inutiles, il va tout contrôler bidnillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors franchement, cette personne là pourra prendre vraiment un nouveau départ. Et si quelqu'un il fait le niya de faire itikaf dans le but de se rattraper d'une vie même de péché, ben Allah ta'ala va voir un signe fort dans son intention. Allah ta'ala va voir que la personne est motivée, elle a envie de revenir vers lui. L'itikaf, mes chers frères, c'est un trésor, ça, c'est un cadeau qu'Allah accorde à qui il veut. Et celui qui le fait, subhanallah, c'est un élu. Parce qu'il va se rapprocher d'Allah dans la meilleure des endroits de la masjid et dans la meilleure des périodes durant le mois béni de Ramadan qu'Allah nous accepte. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, en 15-20 minutes, ça ne nécessite pas énormément de temps, on voulait voir l'autre paramètre à tenir en compte durant le Ramadan. Premièrement, donc, c'était demander tawbah pour un nouveau départ, demander tawbah. Et maintenant, les résolutions. On avait dit qu'on fait une feuille pour nos erreurs, on essaie d'y remédier. Et on fait une feuille également sur les objectifs à atteindre. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce qu'un mu'min doit avancer. Le mu'min doit faire en sorte que de jour en jour, j'allais dire d'année en année, mais de jour en jour, sa situation s'améliore. Qu'Allah Ta'ala soit de plus en plus satisfait de lui. Qui se rapproche, chaque jour doit être un jour qui nous rapproche d'Allah. Parce que vous savez, il n'y a pas 1004 figures. Il n'y a pas 3-4 figures. Soit le jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche du paradis, soit c'est un jour qui nous rapproche de l'enfer. Il n'y a pas d'autre destination là-haut. Soit on se rapproche du paradis, soit on se rapproche de l'enfer. On doit bien garder ce topo à l'esprit et que pour me rapprocher du paradis, je dois premièrement rester constant, bien sûr, ferme dans ce que je fais déjà de bien et essayer de progresser, essayer de gagner du terrain, d'avancer dans les bonnes actions pour qu'Allah Ta'ala m'accepte et élève mon grade et toujours demander « Oh Allah, dois de me garder de l'ouachana. » Ce « Ihdina sirat al-mustaqim » mes chers frères, c'est un doigt exceptionnel. C'est un verset, c'est pas pour rien si Allah nous demande de le répéter pas plusieurs fois, pas un ou deux fois par jour, dans chaque fatiha, de chaque raka'at, de chaque salat. À un tel point que la salat sans fatiha ne compte pas. La salat illa bi fatihati al-kitab. Qu'à chaque fois le mu'min va faire une prière, va faire sa salat, il va demander ce doigt de lui guider vers le droit chemin. Une fois, petite parenthèse, le tafsir du verset, le verset ne me revient pas, subhanallah, qui a été lu il y a quelques jours. Wa'alamu anna Allah yahoulu bayna al-mar'i wa qalbi. Dans le commentaire de ce verset, le sahaba dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu ce doigt, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, celui qui détient les cœurs, celui qui tourne, qui détient les cœurs, qui oriente les cœurs, garde mon cœur dans ton adoration, dans le droit chemin. Ça veut dire au prophète d'Allah, amanna bik, on a eu foi en toi, on est dans le droit chemin. Est-ce que tu as encore peur, tu as des doutes concernant notre iman ou notre destinée? Le prophète m'a expliqué que les cœurs sont dans les mains d'Allah. Allah oriente les cœurs comme il veut. Donc une personne doit toujours demander à Allah Azza wa Jal de le garder dans le droit chemin. On doit garder ce doigt à l'esprit. Et même quand on va rompre le jeûne, ça doit faire partie des doigts prioritaires où Allah garde-nous dans le droit chemin. Allah madina salat al-mustaqim. On doit demander à Allah de nous accorder la mort avec l'iman. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a personne n'a une garantie. C'est pas comme si que vous allez à Makkah, vous avez un passeport, on a mis le visa, voilà, le visa est là, il ne va pas disparaître, il est dedans, je suis sûr que j'y vais. Oui, mais dans le paradis, c'est pas pareil. Là, on parle du monde de l'invisible. Personne n'a une garantie d'accéder au Jannah. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer quelques instants, quelques jours avant la mort. Bon, ça nous a dit, hadith, effrayant, qu'il y a des gens qui, durant toute leur vie, font des actions des gens du paradis. Mais avant de mourir, ils font des actions des gens de l'enfer. Ils deviennent et ils prennent la place des gens de l'enfer. Hadith authentique. Des gens toute leur vie, ils ont prié comme nous. Ils ont lu le Coran comme nous. Ils ont fait le Hajj, ils ont fait le Umrah, ils ont fait la zakat, ils ont donné la zakat, ils ont donné la sadaqa, le dhikrullah, ils le faisaient. Mais avant de mourir, Allah Ta'ala dévie leur cœur. Pour des raisons qu'Allah seul sait, des erreurs qu'ils ont dû faire, ou mauvais comportement, ou une mauvaise réaction à un moment donné. Mais le hadith précise bien que c'est des gens qui, durant pas quelque temps, toute leur vie, ont fait les actions des gens du paradis. Mais avant de mourir, ils font les actions des gens de l'enfer, et ils finissent avec les gens de l'enfer. Ça, c'est une mise en garde sévère, ça. Ça nous permet de prendre conscience que rien n'est acquis. On doit toujours demander ce doigt, parmi les doigts qu'on demande au moment de rompre le jeûne. Après l'accomplissement des bonnes actions, lorsqu'on se réveille dans la nuit pour le Qiyam al-Layl, lorsqu'on est devant la Kaaba, lorsqu'on est à Arafat, parmi les doigts qu'un musulman doit toujours demander, c'est de demander à Allah de nous garder le droit chemin et de nous donner la mort avec Iman. Et après, Inch'Allah, ressusciter avec les gens qui ont la foi et le paradis, bien sûr. Mais la priorité avant ça, c'est l'étape cruciale, c'est le passage entre le monde du dunya et le monde de l'au-delà, le monde du réel et le monde de l'invisible. Quand on passe cette étape, il faut le passer avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça, c'est le plus important. Et donc, concernant les résolutions qu'une personne peut prendre durant ce mois de Ramadan, on vous propose un menu. Comme on dit dans un restaurant, on propose un menu. Qu'est-ce que vous voulez en entrée? Qu'est-ce que vous voulez en plat de résistance? Qu'est-ce que vous voulez en dessert, etc., etc. Ben, subhanallah, la marge de progression est énorme. Il y en a qui sourient, ils ont faim. La marge de progression est énorme de le dîner. Et vous savez quand est-ce qu'on se rend compte que la marge de progression est énorme? Quand on lit, encore une fois, mes chers frères, tant que quelqu'un n'a pas une relation avec le Coran et la Sunna, la personne ne prend pas conscience du chemin qui reste à faire. Tant que quelqu'un ne lit pas l'histoire des prophètes, bien sûr, mais des sahaba aussi, des tabi'in, des piliers de notre dîn, tant qu'on ne lit pas la biographie des gens pieux, on ne va pas se rendre compte qu'il y a un chemin énorme à faire encore. On risque de se suffire de notre parcours. On risque de penser que, ben voilà, mon rythme de vie, hein, c'est la vie d'un musulman. Ben voilà, je me suis levé à 95, je suis venu au Salat al-Asr, j'ai écouté quelques paroles, je ressens, je rompe mon jeûne, mais j'achète un âne à côté, mais rentre à calme, mais casse au carême, il mange avec la famille, et je reviens à Taravi. Mais on a l'impression qu'on est dans le vrai. On est dans le vrai. Et malheureusement, l'être humain se suffit de sa situation. Et Shaitan, il exulte. Il aimerait tellement qu'on se sente conforté dans notre position. Mais quand on dépoussière un peu les livres, on commence à lire l'histoire des Sahaba, l'histoire des Tabi'in, l'histoire des gens pieux, on se rend compte que Allahu Akbar, eux, ils faisaient tout ça. Comment était-ce possible? Et ça, c'est important. Et tant qu'on ne lit pas, tant qu'on n'a pas un rapport avec la science religieuse, tant qu'on n'a pas de la lecture, on n'arrivera pas à prendre conscience qu'on a des actions. Il y a encore une marque, tout est devant nous. C'est pas qu'il y a encore quelques actions à faire, mais tout est devant nous. On a un champ énorme, on a un retard énorme à rattraper par rapport aux sahaba, aux tabi'in et par rapport au comportement en général d'un musulman. Je suis en train de lire un commentaire hier du verset Alladina hum fi salatihim khashi'un. Première page de Sourate al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. On avait fait un programme pour les dames sur ce sujet concernant les qualités qu'il faut pour Alladina yarithuna al-firdaus. Allah Ta'ala de Sourate al-Mu'minun cite 7 sifat, 7 qualités spirituelles qu'un musulman doit développer et dit que celui qui les a, oulaika humul warithun, c'est eux qui vont hériter. Hériter de quoi? Alladina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ceux qui vont hériter du firdaus, du paradis, et ils vont y rester éternellement. Et parmi ces qualités, la première qualité, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui, lorsqu'ils font la prière, ils le font avec dévotion. On peut se dire que oui, avec dévotion, c'est être concentré. Après, on s'arrête à là, on passe au ayat suivant. Non, on passe pas au ayat suivant si facilement que ça. Quand on lit les commentaires, on lit les hadiths concernant la dévotion, la concentration dans la salat, et qu'on lit l'histoire des sahaba, des tabi'in, comme on a dit, comment ils faisaient la salat, on se rend compte que l'écart est énorme, considérable entre ma salat à moi et la salat de ces gens pieux, de nos pieux prédécesseurs. On citera que une citation d'un sahaba. Je ne sais plus si c'est Abu Darda, radiallahu anhu, c'est un sahaba. Il dit que lorsqu'un musulman, et là il parle principalement, enfin, pour les messieurs, parce que c'est plutôt de nos jours, on va dire de notre époque, que c'est plutôt des messieurs qui font la salat à la mosquée, en congrégation. Il dit que man arifa man salla an yaminihi wa an shimalihi muta'ammidan fala salata lahu. Dit quand quelqu'un fait la salat en jamaat et qu'il sait qui est à sa droite et qui est à sa gauche, c'est comme si cette salat n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si on est en train de faire la salat et des gens se joignent à la prière, il y a quelqu'un qui vient à droite, quelqu'un qui vient à gauche, et que on comprend qui est là, qui est à notre droite, qui est à notre gauche, cette salat-là elle n'a aucune valeur. La salat compte, le pilier est accompli, mais la salat-là ne nous apporte rien, parce que la personne n'était pas concentrée. Parce que quand quelqu'un est concentré, il a les yeux rivés sur le sol, et il a une concentration totale. Il est lié avec Allah Azza wa Jal. Il peut se passer ce qui se passe. Normalement, la personne ne doit pas se rendre compte. Alors que nous, on analyse notre propre salat. Quand on fait la prière, quelqu'un vient à notre droite. Il nous faut 3 secondes ou 4 secondes pour décrypter. C'est comme si on passe au scan. On a depuis le doigt de pied, la couleur du doigt de pied, jusqu'au porte-clé qui est posé par terre, jusqu'aux effets personnels, jusqu'à la couleur du kafni, jusqu'à la qualité du tissu, jusqu'à tout ça, l'odeur du attar, du parfum, et diagnostic est fait, on sait qui est là. On connaît qui est à notre droite, qui est à notre gauche. On n'a pas regardé, hein, mais l'esprit a travaillé. C'est qui, c'est quoi, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, etc., etc. Et on sait. Et ça, c'est, malheureusement, c'est un propre constat, ça. Chacun, il doit essayer de réfléchir. Est-ce que je ne le fais pas moi-même? Oui, tout le monde le fait, malheureusement. Il y a des fois où on est très concentré, des fois on est moins concentré, mais on arrive à comprendre qui est à notre droite, qui est à notre gauche. Elle dit que celui qui fait une salade comme ça, la salade à la houpe. C'est comme si que la personne n'a pas prié, cette salade n'a aucune valeur. Vous voyez comment les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils définissaient le khushu', la concentration dans la salade. Il y a un commentaire également dans un des kutub, il dit que, regardez, la seule action qui nécessite la concentration, c'est la salade. Les actions de l'islam, non. Quand on donne la zakat, est-ce qu'il faut être concentré? Que je donne la zakat et concentration, je lui donne, il prend, il profite de la zakat. Non! Même si quelqu'un fait la salat, on dépose près de ses pieds, on part, ou dit quelqu'un donne vous la zakat, ou on fait un virement, zakat, je sais pas, hein, avec carte bleue, ou American Express si vous avez, et vous faites un virement sur tel compte musulman du monde, je sais pas quoi, et qu'en même temps vous êtes en train de boire votre café, la zakat compte! Parce que l'objectif de la zakat, c'est pas la dévotion. L'objectif de la zakat, c'est purifier ton argent et de faire profiter le pauvre de ce qu'Allah t'a donné. C'est ça l'objectif, le maqsad. Quand quelqu'un fait le hajj, l'objectif c'est de faire un effort physique et financier. Même si on n'est pas concentré du premier jour jusqu'au dernier jour, si on dort à Arafat, on dort à Arafat, on dort à Mina et tout, le hajj compte. Pareil pour le jeûne. L'objectif c'est l'effort qu'on fait sur soi, combattre ses instincts, ses pulsions, faire passer l'ordre d'Allah avant ses droits, avant ses envies. Et même si on dort du matin jusqu'au soir, le somme compte. Parce que dans le somme, dans le jeûne, dans le carême, la dévotion n'est pas requise. C'est l'effort, c'est le self-control, le contrôle sur soi-même, sur son âme, d'accord? Mais la salah, vous faites les disent que c'est le seul ibadah qui déjà est très court, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et que ce ibadah est composé uniquement de paroles, de adhkar et de ayat de Qur'an. Et dit que donc, pendant ce laps de temps, il faut que les paroles qui sortent de notre bouche soient remplies de dévotion et qu'on soit extrêmement attentif, extrêmement concentré. Autrement, cette salat n'atteint pas son objectif. Elle n'a aucune valeur. Si pendant les quelques temps, parce que la salat c'est munajat, c'est un serviteur qui s'adresse à son Seigneur. Vous savez, quand un musulman dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah Ta'ala répond, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala répond à cette personne, d'accord? Et donc, il dit que, comment est-ce que quelqu'un pourra dire Ihdina as-sirata al-mustaqim en pensant à autre chose? C'est quoi? C'est une blague. Vous allez dire, oh Allah, guide-nous, garde-nous de le droit chemin, en pensant à quelque chose d'autre, il dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de demander quelque chose à quelqu'un en pensant à autre chose, sans s'appliquer, sans être dévoué sur ce qu'on est en train de dire? Donc, pour qu'on comprenne que si on parle juste de la salah, de notre effort qu'on doit faire de la salah, c'est déjà, il y a un chantier énorme, 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 énorme devant nous. Il ne faut pas se dire que pour progresser dans la religion, il faut faire des choses extraordinaires. On ne va pas dire que voilà, tu veux progresser dans la religion, ben, tous les mois fais un virement de 1000 euros pour la masjid ou fais telle chose extraordinaire. Dis, mais ça je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas le faire. Ou alors tous les 3 mois va à Makka, va devant la Kaaba, dis, mais je ne peux pas le faire. Non, l'effort commence sur les choses de base, revenir à l'essentiel, revenir sur les actions qu'on accomplit déjà maladroitement très souvent et essayer de le parfaire. Parce que vous savez, mes chers frères, si Allah décrétait qu'avec les 5 pions rentrent dans le paradis, c'est que ces 5 arcanes de l'islam là ont une valeur énorme, un effet terrible sur le spirituel, sur l'âme de la personne. Et donc celui qui sait parfaire ces piliers là, la personne décolle dans son iman. Il n'y a pas rien qui nous rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala que les choses qu'Allah ta'ala nous a ordonnées. Et donc si on devait se fixer des objectifs concernant la salat, juste pour rester sur ce point-là, on pourrait se dire que premièrement, allez, juste avant, excusez-moi, avant de passer à la salat, on a parlé du cœur. Si on se fixe comme objectif quelque chose concernant le cœur et ensuite quelque chose concernant le amal, concernant le cœur, on peut se dire que mon objectif de ce mois de Ramadan, c'est de faire les actions avec sincérité et être conscient de chaque action. Qu'à chaque fois que je fais une bonne action, je me dis que ça, je le fais pour Allah. Je ne le fais pas comme une habitude. C'est pas comme si je suis une machine programmée, je fais telle chose comme ça. Quand je mets mes chaussures, c'est du pied droit. Quand je suis damasé, c'est du pied gauche, etc., etc. C'est vrai, c'est devenu une habitude. Alhamdulillah, on a intégré ces sunnah, mais on essaie de réfléchir à ce qu'on fait. Quand je sors de la masjid, ou quand je me chausse, quand je m'habille, quand je fais telle chose, je me dis que là, je suis en train de faire comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de mettre en pratique la sunna. Je suis en train d'obéir à Allah. C'est-à-dire, essayer de décrypter chaque bonne action qu'on accomplit. Essayer de développer la sincérité de nos actions. Essayer, par exemple, si on travaille le cœur, d'éliminer un à un les vices, les défauts, les problèmes qu'il y a de le cœur. Vous savez, le cœur, parfois l'extérieur peut être magnifique. On peut avoir une voiture avec une carrosserie impeccable, avec tout ce qu'il faut, mais si le bloc moteur fonctionne pas, s'il n'y a pas de courroie, s'il n'y a pas de truc dedans, comment est-ce que la voiture marche? Le cœur, pareil, si notre cœur est rempli de haine, de jalousie ou de mauvaises pensées à l'encontre de notre prochain, on ne va pas avancer de le dire. On ne va pas avancer de le dire. Donc, on peut se fixer comme objectif de amal al-qulub parmi les actions du cœur, essayer de se défaire de la jalousie, par exemple. Ou alors essayer de se défaire de la haine. La haine, il y a des gens qu'on n'aime pas, on essaie de trouver des solutions, comment se rapprocher de ces gens, comment faire en sorte d'enlever ces mauvais sentiments. Si tout le temps on a des mauvaises pensées, chaque fois qu'on voit quelqu'un, on est tellement pessimiste qu'on voit toujours la personne de la pire des façons, on pense que la personne est un pécheur, la personne veut me faire telle chose, c'est quelqu'un de mauvais, on essaie de corriger ça. Donc il peut y avoir des objectifs concernant le cœur. Et il y en a tellement, et on n'en a cité que deux ou trois. Maintenant, on peut se fixer également comme objectif de travailler la qualité des actions. Vous savez que pour une action, pour chaque action, il y a à peu près 5 qualités à développer. La sincérité, 1. Deuxièmement, comprendre l'action, comprendre le but. Pourquoi est-ce que je fais telle action? Troisièmement, al-ihtisab. J'avais déjà expliqué ça, l'ihtisab, c'est quoi? C'est quand je fais une action, j'ai la conviction qu'Allah va me rétribuer dans l'au-delà. Ce qui motivera la personne à faire les bonnes actions. Ce qui fera en sorte que ça ne deviendra jamais une routine ou un fardeau. Parce que je sais que quand je fais ma salah, Allah m'accorde telle chose de le paradis. Quand je dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'Allah ta'ala construit pour moi de le paradis? Donc, al-ihtisab, quand je fais une bonne action, immédiatement penser qu'est-ce qu'Allah m'accorde pour cette bonne action. Quatrièmement, l'istiqama. Quand je fais une bonne action, je fais le niyat de le faire tout le temps, de le faire avec constance. Et cinquième étape dans l'action, hifzul a'mal, protéger l'action. Parce que quelqu'un peut accomplir une bonne action là et le brader après salat al-tarawih. Depuis salat al-asr, j'écoute des bonnes paroles, je fais dhikrullah, je fais dua, je rompe mon jeûne, je lis le Coran, je fais isha, je fais salat al-tarawih. J'ai fait beaucoup de bonnes choses là, en un après-midi. Mais en 10 minutes, 15 minutes, je sors de la tarawih, je trouve des amis, je parle, je fais des riba, médisances, des bohtanes, calomnies, ou colporter des choses, qu'il a waqal, namima, et je brade mes bonnes actions. Une demi-journée d'application dans les amal, je les distribue gratuitement en 10 minutes, 15 minutes, parce que j'ai parlé en temps à travers d'une personne, et le jour des comptes, ces personnes-là viendront prendre leur droit avec moi, et le droit de ces gens-là, ce sera quoi? Ce sera ce que j'ai de mieux. Le jour des comptes, ce sera mais amal saliha. Donc la cinquième étape, c'est protéger l'action. Quand on a fait une bonne action, on fait en sorte de protéger, ne pas faire des péchés après ça, pour que l'action reste inscrite dans notre livret de compte. Donc parmi les objectifs qu'on peut se fixer durant ce mois de Ramadan, c'est travailler ces 5 qualités-là qui doivent exister dans chacune de nos actions. On rappelle la sincérité, la compréhension de l'action, l'ihtisab, la conviction qu'Allah nous rétribue, et pour un péché aussi, quand on s'éloigne, qu'Allah va me récompenser pour le fait d'avoir délaissé le péché, le istiqama, être ferme dans l'action, constant, et protéger l'action. Donc ça fait partie des objectifs qu'on peut se fixer, travailler son cœur, on a dit, ou alors les actions quotidiennes, la qualité des actions. Parmi les objectifs qu'on peut se fixer durant ce mois de Ramadan, travailler ma salah. Si je ne viens pas à la masjid, je ne fais pas même mon namaz, ma salah, comment faire en sorte que j'arrive à faire mes 5 prières à la maison à l'heure? Première étape. Si cette étape elle est atteinte, comment faire en sorte de maintenant de progresser et de faire mes 5 salats à la masjid? S'il le faut, commencer par Maghrib Isha tous les jours et ensuite une namaz jusqu'à le plus dur, c'est la salat al-fajr, et certainement peut-être avec le travail la salat al-dhahr. Fais en sorte que tous mes salats je le fais à la masjid. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, je fais mes salats régulièrement en jamad. Maintenant, comment faire pour développer les salats qui sont nafil, qui sont sunna, les sunna que je dois essayer de faire, et en plus si je fais les sunna, les ishra, etc., etc. On monte en grade. Comment maintenant travailler le qiyam ou l'ayl? Parce que quand quelqu'un il fait ses salats en jamad, il fait ses nafil, tout ça, c'est bien, mais il doit progresser dans sa salat. On ne doit jamais arrêter de progresser dans la salat. La prochaine étape, ce sera comment faire en sorte que j'arrive à faire le qiyam ou l'ayl, le tahajjud régulièrement. Et on a dit que pendant le Ramadan, certainement tout le mois on va faire qiyam ou l'ayl. Quand on se lève pour le suhur, le sihri, en général, on se lève, on peut faire de rakat. Mais demander à Allah constance, istiqama, dire oh Allah, donnez-moi la possibilité de faire le tahajjud tous les jours pendant le mois de Ramadan, et de me donner la possibilité de m'accepter pour faire le tahajjud même après le mois de Ramadan. C'est le moment de se fixer ce genre d'objectif. Si là aussi, alhamdoulilah, je le fais, on peut passer un grade supérieur, dire, demander à Allah de nous aider. On se fixe comme objectif de faire tous les salats en jamaat, mais être présent au takbir oula, être présent au premier rang, au premier saf. Si là aussi, alhamdulillah, j'ai pu atteindre cet objectif, je veux passer à une autre étape, travailler la qualité de ma salat, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, travailler la dévotion, le khushu' dans la salat. On va aller un peu plus vite, on va terminer à 5h40. Maintenant, si je fais tout ça, je peux me fixer comme objectif maintenant de travailler la finalité de ma salat. Sachant qu'Allah t'a dit qu'inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, que la salat normalement éloigne le musulman du turpitude et du blâmable. Quand je fais ma salat, comme l'a dit la dernière fois, je contrôle mon regard, je contrôle mes paroles, je contrôle mes pensées, je contrôle mes faits et gestes pour Allah. Je reste concentré pour Allah. On essaie d'avoir cet état d'esprit même dans la vie de tous les jours. Que dans ma vie de tous les jours, je dis que ce qui est nécessaire, je contrôle mon regard, je contrôle ce que je fais, je contrôle mes pensées, je reste concentré, je garde dans mon cœur la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un sait appliquer ça dans sa vie de tous les jours, assurément il va atteindre un degré de foi qui fera qu'il ne fera plus de péché, et là réellement il va atteindre l'objectif de la salat, éloigné du turpitude et du blâme. Et le Prophète m'a dit, Malam tanhahu salatuhu, celui dont la prière ne l'empêche pas de faire des péchés, la personne n'a pas réellement accompli sa salat, c'est-à-dire l'objectif n'est pas atteint. Donc on peut travailler également cette étape. Maintenant, si cette étape elle est atteinte, on peut essayer de travailler l'apport de la salat dans ma vie de tous les jours. Que dans n'importe quelle situation de ma vie, s'il y a un problème, je retourne à la salat. Quand le prophète faisait n'importe quel souci, il faisait 2 unités de prière. Si on m'annonce une bonne nouvelle, il y a une ouverture, le docteur m'annonce que, alhamdoulilah, vos résultats, votre diabète a chuté, ou alors la tension maintenant elle est mieux, ou alors il n'y a plus besoin de prendre un médicament, on est content, je fais ce boujou, je fais 2 rakats, salat, je remercie Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que toutes les situations de ma vie doivent être en relation avec la salat. Je fais un péché immédiatement. Je fais mon vodou, je fais 2 rakats d'unités de prière et je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala doua, pardon. J'ai besoin de quelque chose, je fais 2 rakats, comme on dit, salat al-hajj, demande à Allah de l'aide. J'ai besoin de ton aide, oh Allah, pour faire telle chose. De faire en sorte que ma relation avec la salat, elle est omniprésente dans toute ma vie. Et si l'étape là, elle est atteinte, on peut passer à une autre étape aussi, c'est pas dans l'ordre forcément, travailler ma responsabilité face à la salat. Que moi je le fais, fais en sorte que ceux qui sont sous mon toit le font également de la même façon. Que mon épouse elle fait la salat comme moi, que mes enfants aussi, elles font la salat comme moi, que ma fille elle fait la salat exactement comme moi avec les mêmes conditions. Car, wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alayha. Les deux choses sont demandées, qu'on fait la salat nous-mêmes avec constance et que également on ordonne nos proches, la famille de faire la salat. Quelle erreur que ce père de famille qui vient à la masjid, qui fait tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, mais qui, lorsqu'il quitte sa maison pour le salat al-isha, il laisse sa femme devant la télé en train de regarder des séries, en train de regarder Dr House, de Grey's Anatomy, je ne sais pas quelles bêtises qui passent à cette situation-ci, en train de regarder avec refla, en train de perdre les yeux de sa vie à regarder des bêtises, et après quand on revient, ben après tout le monde va se coucher, on dort, ma femme ne fait pas la salah. Ou mes enfants en train de regarder, en train de surfer, en train de faire je ne sais quoi, et qu'ils ne font pas la salah. Bien inconscient serait ce père de famille qui se croit être un bon musulman, parce que lui il est régulier, il est premier saf, mais il oublie que son devoir c'est wa'mur ahlaka bis salah, d'ordonner à la famille de faire la salat à la maison également. Et que le premier devoir d'un mu'min, c'est ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum. Bien sûr, on doit se protéger nous-mêmes du feu de l'enfer. Mais Allah Ta'ala précise qu anfusakum wa ahlikum nara, et votre famille, vos proches. Celui qui n'a pas su protéger ses proches du châtiment d'Allah, le jour des comptes, aura à répondre. Parce qu'il ne se sera pas acquitté de sa responsabilité. Un père ne peut laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent, faire les bêtises qu'ils veulent. Il ne peut pas laisser sa fille, qui est balira, sortir, aller à l'école avec une tenue qui est contraire aux recommandations de notre dîn. Autrement, il sera amené devant le tribunal d'Allah Azza wa Jalla le jour des comptes s'il n'a pas fait l'effort pour convaincre ses enfants de revenir vers le droit chemin. Et donc, si on atteint ces objectifs, on peut se fixer également comme objectif de ne jamais faire passer quelque chose devant ma salah. Et d'une manière générale, de ne jamais donner priorité à une action sur ma salah. Et puis d'étape en étape, une personne peut également travailler sa relation avec l'argent. Si son problème c'est l'argent, il travaille sa relation avec l'argent, il fait en sorte que d'année en année, hein, il essaie d'enlever de son compte, il essaie de faire en sorte que son travail devienne pur, son travail devienne propre, qu'il enlève l'intérêt, qu'il enlève toutes les choses qui sont mauvaises. Quelqu'un peut essayer de se fixer comme objectif que je vais travailler mes relations humaines. Mon problème c'est les relations, comme on l'a dit la dernière fois, avec mes parents. J'ai un gros problème relationnel avec mes parents, mais j'essaie de me fixer comme objectif Ramadan 2012, j'essaie de gagner le cœur de mes parents. J'essaie de gagner un sourire par jour. Un sourire par jour, le contentement, l'approbation de mes parents. Si mon problème c'est les relations avec madame, j'essaie de travailler ça. Comment faire en sorte que j'arrête de me comporter comme un homme préhistorique à la maison, comme un goujat, et que je respecte ma femme pour qu'il y ait une bonne ambiance dans la maison. Pour qu'il y ait la muhabba qui revient, la mawadda qui revient dans le couple et qui va se rejaillir sur l'ensemble de la famille. Si mon problème c'est ma responsabilité envers mes enfants, dans ce mois de Ramadan, j'essaie de bien fixer les règles. Que je dis à mes enfants, voilà, tu as ton emploi du temps, tu as ton programme, fais en sorte d'encadrer le parcours religieux de mes enfants durant le mois de Ramadan. Si mon souci c'est mes voisins, j'essaie de parfaire mes relations avec mes voisins durant ce mois de Ramadan. Si mon problème c'est la relation avec les gens d'une manière générale, j'essaie d'adopter le meilleur des comportements. Je peux me fixer comme objectif de travailler le Coran, d'apprendre des sourates par cœur, d'essayer de lire, de méditer sur le sens de... C'est-à-dire, Allah, mes chers frères, on ne doit pas perdre une seconde de ce Ramadan. On doit essayer d'avancer au mieux. Profitons que Shaitan n'est pas là pour nous dire que ça c'est inutile, ça c'est pas nécessaire, va faire autre chose. Profitons de ce moment pour essayer de demander Tawbah à Allah, bien sûr, prendre des résolutions pour arrêter les péchés, mais également prendre des résolutions pour avancer dans la religion, pour se rapprocher d'Allah. Et chaque effort qu'on va faire, on demande à Allah de nous accepter pour l'effort, et au moment de rompre le jeûne de Allah, de nous accepter pour faire cette bonne action et arrêter ce péché dans le mois de Ramadan et avec constance même après le mois de Ramadan. Qu'Allah nous accepte de tawfiq, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Là, c'est un moment extrêmement important. Il reste 15 minutes, à peu près 16 minutes pour la rupture du jeûne. Là, on ne lit pas le Coran, là, on ne fait pas le dhikr Allah, là, on ne va pas discuter, on ne va pas vérifier ses messages, on ne va pas vérifier son Facebook, ses tweets. Là, immédiatement, on se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. On se connecte à Allah, on fait dua parce que le iftar, c'est le moment de récompense du jeûneur. Le moment où on obtient la récompense de la part d'Allah, et c'est le moment d'aller demander à Allah Azza wa Jal tout ce qu'il y a sur notre cœur, tout ce qui nous chagrine, on parle à Allah, on communique avec Allah, c'est le moment d'obtenir nos récompenses. Jazakallah. Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifoun, Salamun Alayhi Al-Mursaleen, Alhamdulillah.